mon intervention aujourd'hui part de une recherche en cours à propos de une semaine organisée à Bologne en Italie en 1979 qui s'intitulait la troisième semaine de la performance, la nouvelle danse. Et ça, c'était le titre de cette semaine qui était arrivée après. Oh, pardon, je vous ai entendu parler en français, mais donc. Je voulais dire donc, nel 1977, en 1977, on avait organisé la première semaine de la performance, toujours à Bologne, qui était concentrée sur la performance art. Et donc, un événement très célèbre, Marina Abramović et Ulay étaient l'événement de cette semaine. Et, la settimana, questa prima settimana ha un grande successo, un evento importante per la città, ma non soltanto a livello artistico più ampio, e ha quindi un seguito in una deuxième semaine, in una seconda settimana internazionale della performance, che questa volta ha un sottotitolo, il sous-titre, donc Théâtre della post-avanguardia, poésie sonore, gestuelle et d'animation plastique, donc en 1978. Donc toujours la semaine, toujours la performance, mais un déplacement vers le théâtre et ce dont on parlait à l'époque, le théâtre de la post-avanguardia. Donc une série de performances, d'événements, de présences dans un lieu qui n'était pas un lieu théâtral, mais qui était une galerie d'art moderne, qui donc allait accueillir des performances théâtrales aussi. Et l'année suivante, donc, on arrive à notre, disons, troisième semaine, qui était cette fois-ci concentrée sur la nouvelle danse et qui présentait plusieurs artistes dont on peut peut-être voir juste quelques images prises dans le lieu donc, dont se déroulait la semaine. Donc, quelques artistes célèbres qui étaient à l'époque déjà connus en Italie et sans doute des artistes moins célèbres, c'est-à-dire des artistes italiens qui étaient à l'époque, je crois, en train de se définir, disons, de trouver sa voie dans le panorama de la danse de l'époque. Et des artistes aussi étrangers, pas tellement célèbres comme Steve Paxton, Lisa Nelson, dont on a lu les noms auparavant, mais qui en tout cas nourrissaient la scène italienne de ce temps-là. Trois petits groupes. Le premier groupe de ces artistes forts, disons, qui ont vraiment influencé, je crois, le panorama italien de la danse, pas seulement italien, évidemment, mais d'autres pays aussi, en Europe, donc, qui venaient de la scène new-yorkaise. Des artistes, en tout cas, très actifs en Italie, même qui venaient d'autres cultures, disons, d'autres histoires, et des artistes italiennes qu'on voit en bas, peut-être moins connues, quelques-uns d'entre eux à continuer à travailler, quelques-uns à arrêter de danser, donc un groupe comme ça un peu varié. Et alors, à partir de cet objet, à propos duquel j'ai publié un article qu'on peut lire en ligne, ce qui m'intéresse, c'est un peu pas de définir exactement ma méthodologie, parce que je crois que la méthodologie de chacun est très complexe, mais donc de mettre quelques notes, disons, de voir quelques aspects de ma méthodologie à moi, qui se colloque dans un contexte un peu plus grand. Et donc, à travers des rencontres avec des chercheurs, disons, importants, à travers des instruments, des outils de travail, et pour voir s'il y a, donc il y a un point d'interrogation, des résultats, si on peut parler des résultats ou pas. Et donc, juste pour voir très vite, je pensais d'avoir le temps, mais je ne vois pas, j'ai mon timer. Ok, mais après je vois, donc je ne peux pas suivre. Ezio Raimondi è un italianista, donc un italianiste très connu en Italie qui a créé une école très, très importante, donc un homme d'études qui a bougé entre la philologie et la critique d'une façon très, très haute, très profonde en même temps. Et donc, sa façon de lire les textes a pour moi été en effet une nourriture. Donc, pour moi, ça a été une rencontre avec l'homme, parce que j'étais un professeur que j'ai rencontré quand j'ai commencé à étudier à l'université. Donc, j'étais un professeur qui signe le parcours, disons. Et donc, une personne que je n'ai pas rencontrée, pas connue vraiment, mais donc que j'ai connue à partir des livres, et donc d'une certaine méthodologie de voir et de lire et de s'approcher aux documents et à l'être humain, disons, qui est à la source du document. Et donc, un petit morceau d'un livre récent de ce professeur qui est manqué juste moins que moi, il y a un mois. Et donc, il dit, où sommes-nous quand nous lisons, dans quel espace, dans quel temps se passe le spécial, fragile événement de la lecture, quel est le statut de notre subjectivité, tandis que sur les livres, de phrase en phrase, bougent ensemble l'oreille, le regard, l'imagination et la voix. Donc, pour moi, les textes de Raimondi, qui ont une très précise voix de voir les textes, de voir les mots, m'ont donné, disons, des expériences et m'ont donné une façon de voir les documents que je vois en tant qu'historienne de la danse. Parce qu'un point de départ, en effet, aussi important que je voulais souligner, que j'ai oublié de souligner au départ, c'est en effet comment je me mets en rapport avec cet objet de recherche en tant qu'historienne de la danse, en tant que chercheuse qui travaille à l'intérieur de l'université et donc qui doit aussi faire des choix, disons, institutionnels aussi. Donc, il doit un peu se balancer entre les intérêts personnels, ce qui me touche aussi, parce qu'on essaye, je crois, quand même de travailler même sur ce qui nous intéresse vraiment, et ce qu'il faut, disons, faire. Mais aussi, cette recherche, pour moi, c'est intéressant en effet pour moi d'en parler ici dans ce colloque, comme ça, axé sur la méthodologie, parce que ça me permet aussi de réfléchir un peu sur cet objet et moi, parce que je suis née à Bologne, et je suis née à la fin des années 60, donc pour moi aussi, m'occuper de cet argument qui s'occupe d'une période à laquelle j'étais en train de devenir adulte, disons donc je n'étais pas encore adulte, je n'étais pas spectateur, donc je ne suis pas spectateur, mais je suis quelqu'un qui est en tout cas un peu envoûté, non, dans cette période, cette expérience. Alors je reviens sur Raimondi, donc cette lecture comme expérience physique et mentale par les lecteurs. Donc Raimondi nous dit, quand on lit, les lecteurs ont une expérience physique et mental en même temps. Le texte écrit, pour lui, est comme une créature. Il dit donc que c'est un texte vivant, c'est un texte c'est un texte dans lequel une créature s'incarne. Et encore, donc, l'acte de la lecture est aussi un acte qui nous oblige, qui devrait nous obliger à accueillir l'autre, donc accueillir celui qui a écrit. Donc, pas seulement les mots, mais aussi l'être humain, disons, qui est derrière les mots. Et donc, cette relation entre des êtres humains, disons, fait partir aussi une relation éthique, parce que le lecteur doit, en certaine manière, respecter, disons, ce qui a écrit. Et encore, juste quelques suggestions comme ça avec les mots. Le fait, très important, que le texte est sans fin, disons, inésorie, sans fin, on peut toujours le questionner, il peut toujours dire des nouvelles choses comme ceux qui lit. Donc, comme chacun de nous peut être sans fin, disons, riche en plusieurs possibilités, et donc le texte aussi à cette qualité. Et donc pour moi, alors, cette rencontre, disons, ce parcours, ce genre d'approche au texte est maintenant important, je crois, pour voir quand je vois les documents quand je suis dans l'archive de la galerie de l'art moderne de Bologne, pour voir comment alors alimenter, disons, la présence, non, la présence de ceux qui étaient là, si on veut, ma présence aussi, non, donc de questionner ces plusieurs présences. Et l'autre point, l'autre rencontre dont je veux un petit peu juste parler, mais très brièvement, est avec, au contraire, un historien du théâtre qui, en Italie, a été très important pour fonder, on dit, une nouvelle historiographie du théâtre, pas en général, mais du théâtre, donc qui a été protagoniste, disons, d'une nouvelle force des études en histoire du théâtre dans les contextes culturels italiens, dans les contextes universitaires, donc qui a donné de la force à ces études que, avant la guerre, disons, n'existaient presque pas en Italie. Et donc la méthode de Fabrizio Cruciani, cette petite phrase est prise d'un texte qui s'intitule « Problème d'historiographie du théâtre ». Donc c'est un chercheur qui s'est occupé beaucoup de ça, des problèmes d'historiographie dans les théâtres, dans le contexte des études théâtrales. Et donc il nous dit de l'importance d'imposter le regard à partir de la multiplicité de la matière et pas des unités, des idées, disons, seulement des idées. Malheureusement, je n'ai pas traduit la phrase dans le texte que j'ai diffusé. Donc, il dit que ça, c'est utile. Et donc, il dit de l'importance de se garder près des potentialités expressives de ce qu'il appelle nébulosa, je ne sais pas comment on dit en français, donc un ensemble de...
Nébuleuse.
Ok. Théâtre. Ce qui, pour lui, le théâtre est une nébuleuse, donc, mais qu'il faut, à laquelle il faut s'approcher à partir de la multiplicité de la matière, à partir donc des phénomènes et des théories. Donc, le sens, à mon avis, de ce parcours est le passage continu entre les documents, entre le faire théâtral, non, l'agir, le travail des gens qui travaillent dans le théâtre, dans la vie, dans les relations interpersonnelles, et les idées qui nourrissent ces actions et qui sont nourries par les actions. À la fin, donc, et enfin, un peu ce qui est peut-être un petit lien avec Vito, la dernière phrase nous dit « La historiographie est aussi le répertoire des possibilités du théâtre, donc un corps vivant qui peut et qui doit devenir corps qui vit. Corpo in vita, c'est corps vivant. » Donc la recherche, les études sur les théâtres, spécialement comme moyen pour faire revivre à nouveau et renouveler et changer, recréer, si on veut quand même reprendre ces mots qu'on a déjà utilisés. Et l'autre, un petit outil, au contraire, que je suis en train d'utiliser pour ma recherche, donc qui n'est pas dans l'article, mais qui me permet maintenant d'élargir mon parcours. Ma première phase d'étude a été sur les documents écrits et visuels, sur les traces, disons, de ce qui était cette semaine. Et une autre phase très importante, à mon avis, c'est celle de rapports et de dialogues avec les gens qui ont vécu, évidemment, cette période. Et donc, l'outil de l'interview qui, peut-être, mais ça, je vais vite, donc une source, évidemment, d'études, qui met en relation aussi, et ça aussi maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est très, très important, qui met en relation ce qui fait l'interview et ce qui répond d'une façon pas toujours démocratique, et pas toujours donnée, et qui est en tout cas très intéressant, qui à nouveau appelle une question éthique de l'intervieweur que, le dernier mot, disons, sur ce que l'interviewé a dit, non, évidemment, il, à la fin, c'est ce qui demande qui va écrire, qui va écrire, qui va fixer ce qu'a été dit. Et aussi le fait que interviewer, en effet, transforme aussi l'objet dont on parle. Et ça, c'est toujours comme ça. Quand on parle de quelque chose, on le transforme aussi. Ça devient quelque chose d'autre, même d'une façon positive, disons. C'est-à-dire qu'en parlant de quelque chose, aussi ce qui parle éclaircisse un peu certains parcours ou change ou mystifie, et donc on connaît tous ces petits parcours. Et aussi le passage à l'écriture, alors encore une autre étape de repenser ce qu'on a dit, donc repenser les mots et repenser évidemment l'objet des recherches aussi. Et enfin, ça c'est important pour moi, c'est-à-dire pendant l'interview, en effet, je crois que ce que c'est le plus important, c'est la création d'un espace narratif, c'est-à-dire l'interview permet la création de cet espace qui va être rempli par les mots et qui évidemment change selon les situations, selon l'intervieweur. Donc ce petit outil, pour faire un petit exemple pour ma recherche, j'interviewais Renato Barilli, qui était l'organisateur de la première semaine, qui est un professeur émérite de l'université en histoire de l'art, un professeur très célèbre, très actif dans le monde des arts visuels et très connu. Et donc pour l'interviewer, évidemment, j'ai dû lui écrire, et lui il m'a demandé de lui poser des questions par écrit, par email, donc quelques petites questions dont on pouvait parler comme ça, donc avec évidemment un filtre très très fort. Et tandis que d'autres gens qui ont participé à la semaine, comme quelques danseurs, il y a surtout une dame qui dansait dans la semaine, qui après, maintenant elle ne danse plus, donc une dame qui habite près de chez moi, que je rencontre souvent, et donc elle a très envie de parler de son expérience, de raconter et de dire son souvenir, disons, et son idée de cette expérience. Le résultat, on ne sait pas, donc pour moi, c'est point interrogatif. Pour moi, oui, ok, alors je vais terminer, excuse-moi. Et sans doute un point qui m'intéresse beaucoup et sur lequel on va très vite, est le fait de trouver les paroles pour notre danse, disons. Donc dans ces années-là, on cherche les mots pour dire la danse et on commence à dire nuova danza, on commence à utiliser des mots qui après, ils deviendront normal, disons, normal entre guillemets, parce que aussi le dire la danse est toujours difficile, mais on commence donc à voir des danseurs dont des chercheurs aussi parlent en cherchant les mots. Et donc il y a Leonetta Bentivoglio qui organise la semaine, qui écrit à propos de cette semaine. Il y a des journalistes qui commencent à parler de la danse de ces années-là, parce qu'auparavant, c'était difficile de trouver dans la presse des commentaires à ces propos. Donc, il y a des mots à propos de la danse, même s'il y avait aussi, on essayait aussi de parler en avant. Et pour conclure, alors vraiment, une petite ouverture, vers... un peu le sens ici, on a dit... Je parle de ces événements comme ça du passé, de cette nouvelle danse qui peut-être est en train de naître là, est en train de naître dans ces années-là. Et pour certains chercheurs, il nuovo teatro qui naît, disons, un peu avant la nouvelle danse, se termine à la fin des années 70. Donc il y a quelqu'un qui dit à la fin des années 70, le nouveau théâtre se termine. La nouvelle danse peut-être naisse dans ces années-là. On peut dire ça, on commence à en parler dans ces termes-là. Et, il y a aussi des chercheurs qui disent que le nouveau théâtre n'est pas encore terminé, parce que c'est ouvert dans ces années-là, et maintenant il est encore en train de se développer. Et donc, c'est des ouvertures en tout cas qui restent encore ouverte, disons, donc, dont on tente de mettre un point ou on tente de les exploiter encore mieux. Et on peut aussi noter, juste pour conclure, que les nouvelles histoires en général commençaient avec les annales, par exemple, sont commencées à la fin des années 20 et sont encore ouvertes. Donc, c'est nouveau, ce terme nouveau, en tout cas, est très intéressant pour moi. Et donc aussi, alors je voulais juste conclure avec des mots importants d'Antonio Gramsci, donc certainement pas un historien du théâtre, qui écrit dans les années 30 sa méthode de recherche, disons, dans laquelle on peut retrouver les mots, je crois, de Cruciani aussi, et dans certains parcours d'approche aux documents, d'approche à la recherche. Et donc là, peut-être il y a dans les petits papiers, je lis juste les premières lignes que vous trouvez dans les papiers. Donc on définira la méthode, et non plus la méthode en général, qui n'existe pas, mais une méthode spécifique, d'une recherche spécifique, d'une science spécifique, et qui s'est développée et a été élaborée avec les développements et l'élaboration de cette recherche et science spécifique, en formant un tout avec celle-ci. Merci.
Merci beaucoup, Elena.
Je voudrais savoir, finalement, dans cette méthode que vous décrivez, quelle distanciation elle a, justement, par rapport à, je veux dire, une pensée culturelle, puisque sur cet exemple des mots du nouveau, oui. Vous faites une recherche sur le verbal, ces mots du nouveau, mais dans quelle mesure, je veux dire, ces mots sont justement utilisés par leur aspect performatif, c'est-à-dire pour faire du nouveau, quoi. Ils ont un caractère performatif dans ce sens où quand ils disent on fait du nouveau, comme si on faisait du nouveau. Enfin, je veux dire, mais après sur le plan des formes esthétiques ou chorégraphiques, qu'est-ce qui se passe vraiment de nouveau? Est-ce que vous allez voir finalement c'est quoi ce nouveau là, quoi, hein, et donc en cela être dans une certaine distance avec ce qui se déclare comme nouveau, auquel il me semble que les chercheurs contribuent aussi. Hein. Ouais, là, c'est nouveau. Et bon, voilà.
Oui. Pour moi, c'est intéressant, en effet, de voir les mots qu'on utilise pour dire la danse. Ça, c'est un côté de la recherche qui m'intéresse en général, pas seulement pour cette semaine. Et donc, le terme nouveau pour la danse, en effet, commence à être utilisé en Italie dans ces années-là. Donc auparavant, il y a quelques exemples. J'avais cité un ancien journaliste qui est Alberto Testa, qui utilisait ces termes après avoir vu Merce Cunningham. Donc il dit, j'ai vu Merce Cunningham à la fin des années 60 et c'est nouveau. Pour moi, c'est nouveau, il faut avoir une nouvelle mentalité, il dit. Donc moi, comme journaliste, quand je regarde cette danse qui, pour moi, est nouvelle, alors je dois avoir des nouveaux yeux aussi et une nouvelle mentalité. Et là, les termes arrivent en effet du terme « new dance ». Donc là, c'est des auteurs, Cunningham, Steve Paxton, quand on les définit en Italie, on dit c'est la new dance. Et alors la danse qui on fait dans ces années-là aussi et qui est différente, alors est une danse qui on définit nouvelle. Et évidemment, c'est un terme qui est très utilisé en France aussi, utilisé pour le cinéma, utilisé, je ne sais pas, pour l'histoire de la danse au début du 20e siècle. Donc, c'est un terme qui arrive après quelque chose d'autre, non, par qui veut être différent, évidemment. Donc, sans doute, ces auteurs aussi, les auteurs italiens dont on a vu les noms, sont des auteurs différents l'un de l'autre. Ils ne travaillent pas ensemble, ils n'ont pas la même idée de danse. Mais c'est juste dans ces années-là, je crois, le fait de de vouloir avoir un langage propre, un langage différent de ce qu'il y avait auparavant. Un langage, eh bien, c'est comme ça. Au début du XXe siècle, aussi, on s'est défini nouveau, non? Il y a toujours quelqu'un qui s'est défini nouveau par rapport aux autres. Mais pour la danse, ce terme commence à être utilisé là. Et donc après, on a continué de l'utiliser. Mais aussi, c'est toujours difficile de donner les étiquettes, non? Donc ça devient une étiquette. Nuova danza, ça devient une étiquette. Théâtre danza aussi pour l'Italie, mais pour d'autres. Danza moderna, danza contemporanea, donc c'est des mots toujours difficiles à remplir, difficiles à utiliser, mais qui, en tout cas, bon, on utilise. Donc c'est toujours, ça pose un problème, en effet, d'utiliser ces noms, je crois. Quand même, pour moi, ça pose un problème.
Scusa per l'italiano. Vorrei aggiungere che a proposito di nuova danza, quando arrivarono appunto la prima volta Steve Paxton e gli altri a Roma, insieme ai musicisti, Riley, Sherman Palestine e così via, si definirono New Music e New Dance, certo. Quindi tutte le affiche che noi abbiamo sono proprio New Music e New Dance, quindi quando oggi è chiaro che è Postmodern Dance, insomma. Quindi,
sì, sì. Viene detta New Dance, infatti.
Ma questo anche vale per l'America, vale anche certo. Per la fase americana, vale per gli stessi artisti.
Oui, juste, tu as parlé de l'utilisation des entretiens. Je voulais savoir si tu utilises des techniques particulières d'entretien ou voilà.
Non, moi, je ne suis pas spécialiste en recherche. D'anthropologie peut-être ou plus en tout cas utile je crois plus exploité, donc j'ai une méthode très simple d'enregistrement des mots et après d'écriture en effet de ce qui m'intéresse évidemment, donc je ne transcris pas tout, c'est mon point de vue que j'utilise, donc je n'ai pas une méthode je crois très très raffinée, ça je ne suis pas spécial, je crois c'est tout simple comme ça.
Est-ce que je peux me permettre juste de revenir sur ces fameuses semaines?
Oui.
Quelle est leur place dans les mémoires de la danse en Italie et dans l'histoire de la danse? Est-ce que ce sont des événements oubliés du passé ou est-ce qu'au contraire, ce sont des événements qui sont devenus un peu mythiques et qui ont eu un impact un petit peu comme les vagues après un événement? Et pourquoi êtes-vous revenu sur ces semaines-là pour faire cette déconstruction autour d'une méthode?
Oui. Non, donc, tandis que la première semaine est très connue, et donc il y a aussi une bonne bibliographie sur la semaine liée aux arts visuels. La deuxième aussi, ça appartient à l'histoire du théâtre, disons. Et la troisième, en effet, celle sur la nouvelle danse, n'est pas très connue, elle n'est pas présente dans les histoires de la danse de l'Italie, donc dans les discours qu'on fait à propos de ce que peut-être a été l'histoire de notre danse, disons. Donc, en Italie, nos histoires de la danse, on dit d'habitude, la nouvelle danse arrive à la moitié des années 80, et auparavant, il n'y avait rien. Donc, je le dis un peu en tranchant, ce n'est pas tout à fait exactement comme ça, mais donc évidemment, ça c'est un peu le discours qu'on a fait, et donc on essaye un peu de voir d'autres petits morceaux pour voir d'autres discours, ou pour ajouter quelque chose au discours qu'on a fait, en effet, à partir des années 80, ont été en effet en Italie l'explosion de la nouvelle danse, ça c'est du théâtre, danse-théâtre, ou de la danse contemporaine, donc tout ça, et donc c'est une petite partie en effet qui n'a pas été exploitée.
Non. Est-ce que tu as utilisé, on avait utilisé des matériaux de filmiques, tu as utilisé ?
Donc j'ai repéré jusqu'au moment.
Quelque chose là ? Semaine-là.
Et pour l'instant, seulement une vidéo qui reproduit la performance de Steve Paxton et Lisa Nelson, qui a été aussi montrée l'année dernière à la Biennale.
À la Biennale,
de Venise.
Je me rappelle très bien. Il y a une vidéo à la Biennale
oui.
de Steve Paxton.
Et donc, cette
petite
vidéo vient de l'archive de Bologne, qu'il avait donnée à l'époque à la Biennale, qui cherchait des documents visuels sur les performances.
Tu dis que les vidéos qui ont maintenant la Biennale de Venise, proviennent de Bologne.
Oui, c'est une copie de.
C'est une copie.
De la vidéo
Parce
de Bologne.
Il dit que c'est à l'heure là.
Non, c'est une copie. Il y a aussi, vu aussi les courriers entre les deux archives qui s'est demandait, l'un demandait à l'autre, donc c'est ça. Et il y a, malheureusement, à Bologne, il y a d'autres documents qui sont dans un format, ils me disent, peu lisible, compliqué à lire, donc peut-être il y aura quelque chose d'autre, mais j'ai vu seulement celui-là de Pax, donc en effet, était la présence plus célèbre, donc il y a le document en vidéo aussi.
Même année, à Rome, à la galerie de Fabio Sargentini, Steve Paxton,
oui,
Lisa Nelson.
Mais il était en effet auparavant, Concetta Lo Iacono aussi en avait parlé pendant un colloque, et Steve Paxton était à la galerie Lattico. Après aussi, j'ai lu aussi à la galerie Borghese, dans le parking de la galerie Borghese, donc dans des événements. Et il était une présence forte en effet. Et il a été très content de cette. Ce souvenir, disons, d'une période qu'il m'a dit, pour lui, a été très, très heureux. Donc,
il était jeune. Très jeune.
Oui, c'est ça, peut-être.
Merci beaucoup, encore une fois. Voilà, nous allons donc maintenant écouter la dernière intervention de Francesca.